Man dit tout, la famille d'Abraham, sixième bande.
Oui, c'est ça, t'as très bien compris. Et t'as très bien compris, admettons qu'il y ait une mission de Joseph dans l'exil, ben, ça va. De quoi s'agit-il? En réalité, il se passe autre chose, on s'installe. Pourquoi? En vue de quoi? On dit en vue de la mission, mais ça y est, tu l'as faite. Ils savent mieux que toi que l'essentiel, c'est que tu aimeras ton prochain contrôle. Et si tu as appris comment le mode d'emploi, comment ça fonctionne, en 2000 ans, c'était échoué. Alors rentre-toi, c'est dangereux, c'était échoué. Et vous avez compris? C'est injustifiable. C'était très important que l'Occident entende le message des Juifs. Eh bien, oui, ils l'ont entendu ou ils ne l'ont pas entendu. Pendant ce temps, l'histoire fait que la maison se construit. J'ai eu une fois un dialogue avec un juif orthodoxe, très sincère d'ailleurs, et pas du tout si ça. Alors il me dit, vous comprenez, nous ici, on prépare la mezouza pour la mettre sur la maison. Vous avez vu, ça peut être formulé comme ça. On prépare la mezouza pour la mettre sur la maison. Parce qu'une maison sans mezouza, c'est pas quelque chose. Alors j'ai répondu, c'est là-bas, enfin chez nous, on construit la maison. Et quand on l'aura construite, nous avons déjà notre mezouza, on n'aura pas besoin de la tienne. T'es compris. C'est très, jamais ta vie, il prépare la mezouza. Et c'est très important de préparer les mezouzas. Mais j'ai l'impression qu'il y a une boussole qui est affolée. Vous avez compris ce que je veux dire? Cette identité juive, elle a perdu la boussole. Je ne sais pas pourquoi on parle de tout ça aujourd'hui.
C'est des questions. Moi, j'avais une question dans un domaine qui est un petit peu différent, mais qui sera portée un petit peu à ce que disait madame tout à l'heure. C'était concernant cette question de la nomination. J'ai souvenir que dans un précédent séminaire, il y a quelque temps, vous avez dit que cette science de la nomination s'était perdue.
Oui.
Mais là, j'ai cru comprendre qu'il y avait quand même, au niveau de la femme, encore une espèce de
préscience.
De préscience, en fait.
Ah, absolument.
Absolument.
Mais elle est confuse.
C'est-à-dire que de nos jours, on est vraiment complètement coupé de cette...
Oui. Ah. Vous savez, comme pour beaucoup de choses de l'œuvre de la réalité hébraïque, certains juifs ont gardé ça par grâce. C'est un roi HaKadosh. Je connais, vraiment, dans toutes les tribus, dans toutes les communautés, qui ont ça, parfois c'est héréditaire, et je crois qu'on peut le formuler ainsi. Et, par exemple, cette science de la nomination. Et que c'est l'identité hébraïque en eux. Vous avez entendu parler de Baba Salé, que j'ai connu personnellement, qui était un authentique saint, un authentique grand, plus grand de ce qu'on dit de lui. Bon, c'est une famille qui était comme ça d'ailleurs, ses parents. J'ai même eu le privilège d'étudier avec son frère, qui s'appelait Baba Haki, qui était le rabbin de Ramla. Et ma famille était très liée à cette famille, donc je le connaissais bien. Et j'ai connu des familles de ce genre chez les Hasidim, chez les Mitnagdim, chez les Yéménites, chez les Kurdes. C'est rare, ça existe. Chez les Tunisiens, chez les Algériens, c'est de moins en moins fréquent. Mais il y a eu un temps où toutes les communautés avaient leur saint, leur tzadikim. Alors, on peut en rendre compte comme ça, c'est l'identité hébraïque en eux, pour eux ça va de soi. Je vais vous dire des choses qui vont vous faire sourire, c'est du délire. Ils regardent quelqu'un, et ils savent à quoi il a rêvé la nuit. Bon, vous allez dire, c'est de la mystique. Alors, n'y pensez pas, ce que je peux vous dire, c'est que ça existe. Okay. Bon. Et donc, par exemple, quelqu'un vient les voir, est-ce que vraiment mon nom, c'est mon nom, parce que j'ai des pépins donc. Et puis il répond pas. Allez. Et pourquoi j'ai parlé de Baba Salé? Parce qu'il ne faut pas croire que c'est héréditaire, la preuve, ce qui se passe avec la suite de la dynastie. C'est Baba Sucré, celui-là. C'est français, ça, ce sucré. Là.
Oui, bien sûr.
Je veux bien dire ce que ça veut dire.
Et c'est affligeant de voir cette caricature. Affligeant. Je vous rappelle d'ailleurs que c'est relié à ce que nous avons étudié. Hier, dans le texte, le changement de nom de Sarah mène la bénédiction. Vous rappelez, mène la bénédiction. Je vais citer une Gemara là-dessus.
Je suis
parti. Oui. Ah, bon, faut... Et donc, il y a... quand vous entendez parler d'un rabbin dont on dit que, eh bien, c'est possible. Ça existe, c'est possible. Seulement, il ne faut pas tomber dans la superstition.
C'est ça.
Je crois que le plus grave pour la religion, c'est le risque de superstition. Vous savez, c'est la fausse monnaie de la vraie monnaie. Je reviens tout de suite. Pardon ? Et vous savez, il y a des maladies qui sont soignées par des drogues. Il n'en reste pas moins que les drogues, c'est dangereux. Je crois quand même qu'on a eu un séminaire assez bien.
Assez riche, quoi.
Et. Alors donc, le prochain séminaire, les conférences seront de l'œuvre de M. Neher. Et donc, nous aurons différents thèmes. Alors, soit je choisirai des textes sur les thèmes qu'on étudiera en conférence, soit si vous voulez, on continue l'histoire de la famille d'Abraham en prenant la période de Joseph et ses frères, si vous voulez, puisque je vois que les questions sont entendues.
Ça sera à quelle époque à peu près ?
C'est du 12 au 17 mars.
Ah, c'est déjà fixé.
À moins qu'il y ait un changement catastrophique, mais.
On n'a pas parlé de temps qui s'arrête, on n'a pas les familles, est-ce qu'on pourrait pas continuer ?
Ou alors, si vous voulez, on continue avec Isaac.
Oui, Isaac est toujours un peu chanté dans tout.
Oui.
Toujours. Mais dans tout. Partout. Partout.
Vous savez.
Et c'est la personne qui a subi. C'est-à-dire, quand on le voit, il subit le, sans rien dire, on va l'attacher, on va, il dit rien, il accepte, il obéit. On lui dit de rester, il reste. On va lui choisir une femme, il accepte. On pense qu'il n'a aucune initiative, et pourtant, il est très représentatif.
Oui.
C'est vrai qu'à première lecture, il peut donner l'apparence d'être un peu fallot par rapport aux deux géants.
Non, je n'ai pas dit fallot. Non, pas ce que j'ai.
Non,
pas
je dis, bon, on peut penser cela par rapport à Abraham ou par rapport à Jacob.
Il a une soumission très, très grande. Ou une émouna très forte, mais je ne sais pas.
Si vous voulez, alors à ce moment-là, on prend le style d'Isaac.
Oui, c'est le personnage qui m'a le... Les autres, je suis d'accord. Abraham, c'est un grand personnage. Jacob, c'est nous. On accepte. Mais Israël, et chaque fois qu'on veut dire du bien, on dit on l'a bloqué. Il est trop juste. Si on devait être comme Israël, c'est trop dur. On a l'impression que c'est le monsieur très sévère.
Ça vient du fait
qu'il dit des choses très bien, mais il ne faut pas l'écouter.
C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il croit qu'il y en a
plusieurs. À moins que ça vienne du fait que dans son nom, il y a le Ketz et il y a le Chai, c'est-à-dire que...
C'est un des thèmes. Mais si vous voulez, je vous prendrai...
Et vous avez toujours sauté, Trac, en fin de compte. On a fait souvent Abraham. Vous l'avez sauté.
On en parle moins qu'Abraham et Jacob.
Non, vous avez raison, il y a quelque chose comme ça. Dès qu'on parle d'Abraham, il faut parler de Jacob, mais...
Oui. Et la preuve, c'est qu'on...
C'est un peu difficile. J'ai remarqué, il y a eu des années où j'ai fait des textes du Rav Kook, mais...
Ah oui, c'est bien, c'est
impressionnant.
Peut-être que vous avez progressé en hébreu, c'est possible.
Mais bientôt, avec Benoît Gross, on aura un...
C'est prévu ?
Il est en train de traduire, d'après ce que j'ai pu comprendre, et c'est loin, au Rota Tchouva. Ou au Rota Tchouva.
Rota Tchouva, c'est exact. Mais, vous voyez, pour Isaac, c'est le fils du père et le père du fils. Et bien, si vous voulez, on étudiera Isaac. Alors, je choisirai des thèmes dans le Midrash sur Isaac.
Et sur le combat d'accord
et on pourra enchaîner dessus. Oui. D'accord. Oui.
Je voulais poser hier, avant-hier, une question à propos d'Abraham dans la guerre de Recède. Et j'essayais de comprendre après aussi. Je demandais. Alors, il a donné le meilleur de il a donc sacrifié le meilleur de lui-même. Vous m'avez dit non, il m'a répondu. Il a sacrifié ce qu'il pouvait risquer d'échouer.
Oui.
Juste comme ceci. Mais il a aussi. Mais corollairement, c'est le meilleur de lui-même, Isaac.
Non, écoutez, nous ne sommes pas au même niveau. Ça, j'ai employé une expression en français, je vous avais dit, il a sacrifié son sacrifice. Alors j'explique. Il était en fin de compte prêt à sacrifier Isaac. Et cela, cet effort de vertu d'arriver jusque-là, lui, l'homme de Chessé, de sacrifier son fils, cette chose-là, il va la sacrifier. Et ne pas sacrifier son fils. Ça, c'est pour moi. C'est clair ce que je dis là ? Il a sacrifié son héroïsme. Et en quoi cela l'a modifié, toute cette scène, cette expérience la Akedat Yitzhak, c'est qu'il a un chesed contrôlé. Le caractère dévastateur du chesed incontrôlé, c'est terrible. Le monde va à sa perte du côté de chesed comme du côté de Din quand ils sont seuls. Et je crois que maintenant vous êtes familier à cela. Il y a deux déluges, il y a le déluge d'eau et le déluge de feu. Le déluge d'eau, c'est par chesed. Le déluge de feu, c'est par Din. Bon. Et Soso, déluge d'eau, déluge de feu.
Un déluge.
Mais dans Isaac aussi, dans le vin, en se donnant, il s'est contrôlé. Il a contrôlé son vin.
Rappelez-vous ce qu'on a appris. Abraham a ligoté le din de l'ATV, le din de Isaac. Isaac s'est levé de l'autel où il était ligoté, il s'est levé capable d'être père de David. Avant cela, il était capable d'être père d'Ésaü, c'est-à-dire de Rome, de l'empereur romain. Quelle différence entre le roi David et l'empereur romain? C'est Isaac avant la Hagdal Israël, Isaac après la Hagdal. J'ai dit ça rapidement peut-être, mais je crois que ça vous est suffisamment clair. Vous savez, c'est pourquoi, ce que je veux dire, c'est très général, mais c'est très important. On ne peut pas traiter des réalités d'Israël avec le vocabulaire de Rome. Il y a un amalgame, un roi, un chef d'État. Et alors, l'amalgame consiste à dire, mais il n'y a pas de différence. Et Dieu sait à quel point il y a une différence. Vous comprenez ce que je veux dire ? La rencontre entre Herzog et Mitterrand, eh bien, c'est les mêmes mots. Mais derrière, il y a deux conceptions du monde qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Les mêmes mots. Quand Herzog parle de liberté, égalité, fraternité, ça a un sens hébraïque qui finalement renvoie une réalité israélienne qui n'a rien à voir avec les perspectives politiques de la France de Mitterrand. Bon, ça va jusque-là, mais vous voyez ce que je veux dire.
Pourtant, ils se ressemblent un peu, les deux.
Mais je crois pas.
Mais d'allure physiquement.
Je sais pas. Non. C'est un compliment pour qui, ça? Vous savez, j'étais interviewé à la radio Jules, là. Non, c'est autre chose encore. Vous entendrez ça si ça vous intéresse lundi soir à
9h. 21h ou
9h? 21h, quoi. Et alors, celui qui m'a interviewé, un homme charmant d'ailleurs, j'étais heureux de faire sa connaissance.
Benamou,
Nahoul.
C'est à 9h30 alors.
C'est un de vos amis?
Oui.
Ah, très bien.
C'est côté court.
Côté jardin,
je ne sais plus faire. Ouais.
Bon, alors, en me parlant des juifs orthodoxes, il emploie le mot intégriste. Ça m'a fait bondir. C'est un amalgame dont on n'a aucune idée à quel point il peut être dangereux. Ces juifs orthodoxes ne sont pas du tout intégristes dans le sens du vocabulaire français. Ça n'a rien à voir. C'est des gens qui sont paisibles. Et ils ne tueraient pas une mouche. Bon, ils vont assassiner l'État d'Israël. C'est une autre histoire. Mais une mouche, ils ne tueraient pas. Vous comprenez ce que je veux dire ?
Hagdal Israël, ça n'a pas un rapport avec le défilé.
Laissez-moi réfléchir. Tu parles de ligoté ?
Oui.
Non. En fait, l'essentiel de ce qui a été ligoté pour Israël, c'est les pieds, ce n'est pas les mains. Je vais chercher, je ne sais pas. Mais ce que j'ai appris, je vais vous dire de qui je l'ai appris il y a très longtemps, c'est d'un médecin, un psychiatre qui est à Jérusalem, c'est le docteur Choupak, Yehuda Choupak. Ça vous dit quelque chose, les Alsaciens, là, il n'y a pas d'Alsaciens par lui. C'est un Polonais de Strasbourg. Ouais. Et là, il nous avait fait il y a très très longtemps un exposé de comparaison entre Hagdal Israël et Édipe. Alors, et il a montré la différence, c'est un exposé extrêmement fécond d'ailleurs. Édipe, c'est le fils qui tue son père. Hagdal Israël, c'est le père qui ne tue pas son fils. Vous voyez à quel point l'âme hébraïque a des problèmes qui n'ont rien à voir avec l'âme grecque. Mais ce qui est intéressant, c'est un point d'érudition, vous pouvez vérifier, c'est que dans le mythe originel d'Édipe, Édipe s'appelle Édipe au pied ligoté.
Oui, c'est vrai.
D'accord ?
Oui. On pouvait le tuer, on a ligoté les pieds.
Oui.
Juste pour terminer, pour clore sur le chapitre.
Et sur l'heure d'ailleurs.
Oui. Et Yaakov, cette préférence affichée de Joseph, pourquoi est-ce qu'on l'a précisément? Est-ce que, bon, d'abord, ça n'a longtemps existé, en fait, déjà dans le Saint en famille. Non, vous voyez, okay.
Écoutez, je vais vous dire. La Torah ne l'a pas caché, Ken. Oui. Dans l'identité d'Israël, Jacob, il y a une préférence pour celui de ses fils en qui il voit son identité d'exil qui va continuer. Jacob aime Joseph. Israël, son fils est Judas, c'est pas Joseph. Et c'est le même homme, le père. Au niveau Israël, c'est les fils de Léa et les Israël. Les fils de Rachel, c'est l'exil. Vous avez compris ?
C'est un petit attachement à l'exil.
Écoutez, ça éclate dans l'histoire juive. il y a une espèce de tendresse pour les ghettos. Ah. Mais écoutez,
Mais
aucune idée, le nombre de grands rabbanim, d'authentiques rabbanim, qui ont un amour de la juiverie des ghettos dont on n'a aucune idée. Il faut vraiment être, avoir subi l'électrochoc pour se retrouver rabbin israélien et pas juif de ghetto. Ça n'a rien à voir. Et vous comprenez ce que je veux dire ? Mais je ne peux parler que de mon expérience microscopique. Moi aussi, j'ai un faible pour le juif des ghettos. Et pourtant, Dieu préserve dans mes prières, je demande, ça n'existe plus, ces choses-là, les ghettos. Vous comprenez ce que je veux dire ? Je suis sorti d'un ghetto, mais j'en suis sorti grâce à Dieu. Ça nous a... Plus que ça, c'est plus profond. Il y a un appel de l'universel, même si le prix c'est le ghetto dans la menu. J'adore les Russes, même si je sais que ça peut être le pogrom. Mais il y a quelque chose qui va jusque-là. Pourquoi ? Parce que les Russes, pour les Juifs russes, c'est ça l'universel humain. Les Français, c'est exotique. Vous comprenez ce que je dis ?
C'était dit même
par des... J'ai donné l'exemple des juifs russes, on peut inverser.
C'était dit même par des chefs d'État, c'est ça même.
Oui. Comment ?
C'est une protection, le ghetto aussi.
Écoutez, c'est comme quand quelqu'un s'est cassé la jambe, et bien son emplâtre, c'est une protection. Alors ni emplâtre, ni cassure. Ni cassure, ni emplâtre. je crois que finalement, les juifs ont acquis une espèce de névrose. Frappe-moi que je puisse me soigner.
C'est l'histoire du gars qui est partout, parce qu'après, il se sent mieux.
Voilà, c'est ça. Je crois qu'il faut, se désintoxiquer de ça. Et les chrétiens ont réussi à nous imposer cette image de Marc. Vous êtes le Messie souffrant qui sauve le monde par vos souffrances. Oui.
Souffrez pour nous.
Non, je crois qu'il faut vraiment se dégager de ça. Quand un Israélien vous dit « Moi, je suis plus juif », entendez ce qu'il veut dire. Il veut dire « Je suis le vrai juif, celui qui n'est plus. » Je suis le vrai juif, celui qui n'est plus. Un juif de ghetto, un juif de cour, un juif courbé, un Israélien, c'est un juif redressé. Et c'est irréversible. D'ailleurs, le goyim, ça. Il y a un héroïsme de tenir le coup à la rue des Rosiers comme juif au milieu de Paris. Bon, c'est héroïque. Okay. Mais en TB, c'est autre chose. Vous revenez, monsieur. Bien. Alors, sur ce, Shabbat Shalom dans vos ghettos.